It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Nous sommes le vendredi 9 août 2024 et il est 19h05 en temps universel. Bonsoir et bienvenue à l'écoute d'une nouvelle édition de l'Amérique et vous, au micro Jacques Aristide en direct du studio 9 de la VOA à Washington. De l'autre côté de la vitre, Georges Léonard Sagneau pour la mise en onde. Ce soir, le duel des colistiers dans la course à la Maison Blanche. En début de semaine, la vice-présidente démocrate Kamala Harris a choisi Tim Walz, gouverneur de l'État du Minnesota, pour la seconder dans la campagne. J.D. Vance, sénateur de l'Iowa, est lui le bras droit du candidat républicain Donald Trump. Mais à quoi servent les deux candidats à la vice-présidence des États-Unis? Les colistiers peuvent-ils élargir la base électorale à des prétendants principaux? Et en cas de victoire, le numéro 2 de la prochaine administration aura-t-il un impact significatif? Pourra-t-il par exemple influer sur la politique étrangère, dont celle relative à l'Afrique? Analyse et commentaires à venir dans cette émission. Trois invités avec nous ce soir, en direct de la ville d'Annapolis dans l'état du Maryland, le professeur Jean-François Seznec, politologue, économiste et directeur de Lafayette Group. Bonsoir professeur Seznec.
Bonsoir.
Via WhatsApp, Calvin Dark, directeur et cofondateur de RC Communications, un think tank basé ici même dans la capitale américaine. Bonsoir Calvin.
Bonsoir.
Et en ligne de Dallas dans l'état du Texas, Junior Bonpetit, entrepreneur et activiste politique originaire de la République démocratique du Congo. Il est l'initiateur de la plateforme Congolese for Trump. Bonsoir Junior.
Bonsoir Jacques, merci.
Jean-François Seznec, le démocrate Tim Walz, en tant que colistier de Kamala Harris, et le républicain J.D. Vance, celui de Donald Trump, sont-ils des choix stratégiques pour ces duels électoraux des États du Midwest, pour ne pas dire ces États jugés clés tels que la Pennsylvanie ou l'Ohio, en vue de la présidentielle du 5 novembre prochain? Qu'apportent-ils concrètement à leurs campagnes respectives? Bref, quels sont leurs atouts et leurs faiblesses?
Ouais, et effectivement, c'est très important de choisir le bon colistier dans le cas de Monsieur Walz. Il a été choisi parce que il est d'abord homme blanc et il est très très bien vu dans son état. Il a beaucoup d'idées. Il a un résumé, un CV qui est excellent et qui pourrait plaire bien sûr à tout l'électorat mâle blanc qui pensait être mal servi par les démocrates jusqu'ici. Du côté de Walz, bien sûr, on a eu quelqu'un qui est du côté de Vance, on a quelqu'un qui est beaucoup plus jeune, si vous voulez, que Trump et qui est vu aussi comme étant capable d'amener les États du Sud. Parce qu'il a une base dans le sud, une base familiale dans le Kentucky et dans le sud de l'Ohio qui est très bonne.
Oui, Tim Walz est âgé de 60 ans, Kamala Harris 59 ans, J.D. Vance a décélébré ses 40 ans il y a exactement une semaine, vendredi dernier le 2 août, et Donald Trump, lui, est âgé de 78 ans. Calvin Dark, comment les accusations portées contre Tim Walz concernant son service militaire et son retrait avant un déploiement en Irak pourrait-elle affecter la perception des électeurs, surtout parmi les vétérans et les familles de militaires?
Oui, je crois que ça va retomber sur Donald Trump et surtout de J.D. Vance, parce que c'est normal d'applaudir à chaque soldat, soit 4 ans ou 24 ans. Il a fait ses retraites pour se présenter pour le Congrès, pour encore de services publics. Alors, je crois que c'est critique, surtout de quelqu'un qui était, franchement, journaliste avec des soldats dans les marines. c'est pas normal politiquement, et je crois que ça va retomber sur Donald Trump. Surtout parce que je crois que tous les Américains, n'importe quel parti, respectent les soldats. Et c'est pas le bon critique pour commencer la campagne.
J.D. Vance a violemment critiqué Donald Trump par le passé avant de devenir son colistier. Quelques exemples de propos qu'il a tenus, tels que rapportés par la chaîne CNN, je cite « Le soutien apporté à Trump se fonde sur du racisme, de la xénophobie. Je ne voterai pas pour Donald Trump car il attribue des problèmes complexes à des boucs émissaires. » Fin de citation. J.D. Vance multiplie également les faux pas et les controverses. Sa dernière polémique en date, une déclaration sur les femmes et les chats. Dans une vidéo datant de 2021, il accuse les démocrates au pouvoir d'être une bande de femmes à chats malheureuses qui veulent donc rendre le reste du pays malheureux lui aussi et n'ayant pas d'intérêt direct au bien du pays puisque dépourvu de progéniture. Junior, bon petit, J.D. Vance est-il devenu un danger pour la campagne de Donald Trump?
Non, pas du tout, pas du tout. J.D. Vance est c'est un atout supplémentaire pour la campagne de le prochain président américain Donald J. Trump, parce que comme les élections se jouent vraiment dans ces États clés là, le Sud, lui il est au Ohio, donc il va jouer un rôle important supplémentaire pour compléter. Mais ce sont de bonnes guerres, hein, vous savez. Ces commentaires ont été faits avant que J.D. Vance puisse réaliser réellement le personnage de Donald Trump. Et signalons ici que le président Donald Trump était inconnu dans le monde politique, hein, bien connu dans le business, mais il était inconnu, donc c'était un peu un électrochoc au début, mais il s'est ravisé, et puis maintenant c'est un bon candidat, un bon profil pour nous, et surtout il incarne l'avenir. Après les 4 ans de Donald Trump, c'est lui qui prendra les relais et dirigera le parti. Quoi.
Certains diront qu'Internet aime bien les chats, mais pas forcément les clichés sur les femmes sans enfants qui les aiment. Jean-François Seznec, les États-Unis ont récemment renforcé leur présence en Afrique face à l'influence croissante de la Chine et de la Russie sur le continent. Comment les visions respectives de Tim Walz et de J.D. Vance pourraient-elles façonner la stratégie américaine en Afrique, en particulier en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, le développement économique et les relations diplomatiques?
Mais écoutez, je pense que ce qui est intéressant un petit peu, c'est que ni l'un ni l'autre des candidats n'a vraiment eu une influence, a eu une connaissance profonde des affaires internationales, et que en fait c'était pour moi en tous les cas c'était un point qui qu'on peut questionner tout le temps, parce que je ne sais, on, à part le fait que Walz a passé un an en Chine comme professeur, je vois pas vraiment ce que eux amènent, si vous voulez, dans la politique internationale jusqu'ici. Mmh. Et en fait, c'est une faiblesse des deux parties, des deux côtés, dans ce cas-là, parce que ça laisse la responsabilité internationale pour l'Afrique et en particulier du côté avec les candidats présidentiels, avec Madame Kamala Harris et avec Monsieur Trump. Donc on ne sait pas exactement ce qui va se passer avec ça, et c'est, pour moi c'est une grande question ça.
Calvin Dark et Junior Bonpetit, je vais vous poser les mêmes questions suivantes. Comment les choix de colistiers influencent-ils la perception internationale des candidats à la présidence? La présence de Tim Walz aux côtés de Kamala Harris et celle de J.D. Vance aux côtés de Donald Trump pourrait-elle renforcer ou nuire à l'image des États-Unis sur la scène mondiale? Je commence par vous, Calvin.
Je crois que c'est évident que Tim Walz, il est ouvert aux autres cultures. Par exemple, l'expérience avec la Chine et aussi Kamala Harris. Le bilan de Kamala Harris comme vice-président, elle a rendu visite en Afrique et elle a été aussi très forte devant les leaders en Afrique. Par exemple, le président à Ghana, et elle a critiqué devant lui les projets de loi contre la communauté LGBT, par exemple. Par contre, Donald Trump et J.D. Vance. Je ne connais pas vraiment leur programme pour l'Afrique, mais je me souviens comment Donald Trump a qualifié les pays africains, et je suis poli, alors je ne vais pas répéter ce que l'ancien président a dit sur l'Afrique, mais je crois que c'est clair. Si le président, l'ancien président Trump gagne, l'Afrique n'est pas une priorité, même pire pour ça, parce que Poutine est un de ses héros. Il laisserait Poutine continuer à faire ce qu'il fait en Afrique en ce moment, et je ne crois pas que ça c'est bon pour le continent.
Eh bien, on va demander à Junior Bonpetit de répondre à ces questions et peut-être également à réagir à ce que vous venez de dire. Junior Bonpetit.
Oui, merci. Je m'inscris à faux ce que M. Calvin a dit. Nous avons vu les 4 ans de Donald Trump avec une politique étrangère africaine qui est très ouverte. Je prends l'exemple de la République démocratique du Congo. À l'époque, lors des élections, l'ancien président Joseph Kabila ne voulait pas laisser le pouvoir. Le président Donald Trump a demandé à Mme Nikki Haley, à l'époque ambassadeur aux Nations Unies, pour le compte des États-Unis, et dépêché au Congo pour parler à ce monsieur. Et nous avons eu les élections en République démocratique du Congo. Juste pour démontrer que la politique étrangère de Donald Trump, c'est une politique de gagnant-gagnant. Ce n'est pas de subalterne, vous êtes aux injonctions. Non, c'est vraiment gagnant-gagnant sur le respect. L'Amérique gagne, l'Afrique gagne. Donc c'est ce même esprit que nous allons, que l'administration Donald Trump et Jed Vance va implémenter avec les Africains, avec une approche d'égal à égal. Donc là, je suis tout à fait d'accord. Mais sinon, revenons de l'impact des vice-présidents. Les vice-présidents ne jouent pas vraiment un grand influence parce que c'est les rendez-vous ici d'un homme avec son peuple, de Donald Trump, avec le peuple américain, l'électeur américain. Et on verra ce que le président a eu à faire, quelle est sa vision. Mais J.D. Vance sera là comme un conseiller, comme le premier collaborateur du président parce qu'il n'est pas responsable direct. Vous voyez, et nous avons vu ce que Kamala Harris a fait en tant que vice-président. Elle a été confiée, on l'avait confiée la frontière du Sud. Donc voilà comment on l'a fait, c'était catastrophique. Vous voyez, donc déjà quelqu'un qui a montré ses prouesses en étant vice-président, et comment est-ce qu'il fera quand l'Ukraine sera président. Donc le choix de Donald Trump et J.D. Vance, c'est le choix de la responsabilité, c'est le choix du respect d'égal à égal avec les dirigeants africains.
Alors, pour faire une petite distinction, un vice-président américain n'est pas, par exemple, comme premier ministre en France, n'est-ce pas? Je ne sais pas si... peut-être...
Ce n'est pas le vice-président, oui, en France, vous voyez. Parce qu'ici, voilà, c'est le régime présidentiel. Tout, oui, est centré... c'est le président qui a tout le, oui, plein pouvoir. Alors qu'en France, c'est les régimes semi-présidentiels où le président n'est pas responsable devant le Parlement, devant le peuple. D'accord. C'est le premier ministre qui implémente la vision du président.
Voilà. Vous êtes à l'écoute de l'Amérique et vous, une émission que vous propose VOA Afrique chaque vendredi à 19h05 en temps universel. Merci à vous d'être toujours branchés.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Eh bien oui, vous écoutez l'Amérique et vous, un programme de VOA Afrique. Mille fois merci de votre fidélité. Jacques Aristide avec vous ce soir. Nous nous penchons sur le rôle des colistiers dans la course à la Maison Blanche. Il s'agit du démocrate Tim Walz, choisi par Kamala Harris, et du républicain J.D. Vance, qui lui fait campagne avec Donald Trump. Nous retrouvons nos trois invités. Jean-François Seznec, politologue, économiste et directeur de Lafayette Group. Il est à Annapolis, la capitale de l'État américain du Maryland. Calvin Dark, directeur du think tank RC Communications. Il se trouve ici même à Washington. Et en ligne depuis la ville texane de Dallas, Junior Bonpetit, entrepreneur et activiste politique. Il gère la plateforme Congolese for Trump. Le duo démocrate Kamala Harris-Tim Walz et le binôme républicain Donald Trump-J.D. Vance continuent ou prévoient de continuer leur tournée des États pivots capables de faire basculer l'élection présidentielle de novembre. Après
Après la convention du Parti démocrate, du 19 au 22 août à Chicago, au moins un débat est prévu entre Kamala Harris et Donald Trump. Le 10 septembre, sur la chaîne ABC, le républicain en a proposé deux autres qui n'ont pas été confirmés à ce stade. Jean-François Seznec, quid des colistiers? Y aura-t-il un duel télévisé entre Tim Walz et J.D. Vance? Et s'il a lieu, ce face-à-face permettra-t-il aux électeurs d'avoir une idée claire et nette des valeurs qu'ils incarnent?
Je ne pense pas vraiment. Enfin, l'histoire nous montre que les discussions qu'il y a entre les vice-présidents dans ces débats télévisés n'ont pas vraiment d'importance. C'est une façon pour chaque parti de marquer des points et de montrer que les candidats vice-présidents sont derrière leur président. C'est plutôt en fait des présentations de programmes et des attaques contre les autres programmes. Ce sera intéressant de le voir, bien sûr, parce que ça donne une idée de la personnalité des gens quand même. Mais je ne pense pas que ça ait une importance énorme sur le résultat final.
Tim Walz et J.D. Vance, tous deux sont originaires du Midwest. Tous deux ont une expérience militaire. Tous deux ont été élus au Congrès. Et tous deux ont donc été choisis comme potentiels vice-présidents. Quelques points communs que partagent les deux hommes. Mais Calvin Dark, est-ce que tout les oppose sur le plan idéologique?
Oui, je crois que oui, mais c'est difficile à savoir parfois avec J.D. Vance parce que selon ses anciens amis de la fac, il a beaucoup changé depuis ce temps-là. Mais je crois que la différence, ce n'est pas vraiment l'idéologie, mais c'est... Tim Walz, il est démocrate, mais il était dans un district quand il était au Congrès, conservateur. Et comme gouverneur, il a travaillé avec les républicains. Alors pour lui, c'est pas juste une question d'idéologie républicaine ou démocrate, mais comment est-ce que, avec ses principes démocrates, peuvent collaborer avec les républicains. Il le fait au Minnesota. Il va collaborer avec la présidente Kamala Harris s'il gagne. Au niveau fédéral. Mais malheureusement, J.D. Vance, il n'a pas cette expérience. Il a moins de 2 ans au Sénat où il prend ses positions idéologiques très fermes. Il ne collabore pas avec les républicains. Et je crois que ça va être un des facteurs très importants pour les électeurs en novembre.
Junior, bon petit, le choix de colistiers vétérans comme Tim Walz et J.D. Vance soulève la question du rôle des anciens militaires dans la politique américaine. Ce passé militaire est-il un facteur de confiance pour les électeurs ou est-il devenu un terrain de critique et de controverse?
Non, moi, je pense que c'est plutôt un facteur de confiance parce que le service public, le militaire sont très, très, très respectés ici aux États-Unis. Et Donald Trump a démontré pendant ces 4 ans, il a mis le militaire, les vétérans, leur a donné une place de choix, a augmenté leurs assurances, leur prise en charge. Et mettre J.D. Vance là, ça prouve à suffisance que Donald Trump donne une importante place à ces derniers. Donc, J.D. Vance va jouer un rôle comme par rapport à son jeune âge, une nouvelle génération, une nouvelle façon de voir les choses et rafraîchir un peu Donald Trump dans sa prise de décision et essayer un peu de ramener une nouvelle énergie quoi, dans sa politique.
Donald Trump a affirmé que le choix du vice-président a historiquement peu d'impact sur l'élection présidentielle. Junior Bonpetit en parlait un petit peu tout à l'heure. Jean-François Seznec, cette déclaration est-elle valide à la lumière des exemples qui demeurent ancrés dans les mémoires, comme ceux de Sarah Palin en 2008 ou Al Gore en 1992? Et qu'est-ce que cela implique pour la stratégie démocrate avec Tim Walz et celle des républicains avec J.D. Vance?
Bien écoutez, on ne peut pas dire que tous les vice-présidents sont faibles. Il y a eu certains vice-présidents qui étaient très forts et qui ont eu l'occasion de montrer qu'ils étaient très forts, comme Truman par exemple, quand il est devenu président après Roosevelt, ou bien même si sous Bush, vous aviez Dick Cheney qui était en fait vu par la plupart des gens comme étant le président réel du pays alors que Bush était très faible. Donc c'est souvent vrai que le président, comme le dernier vice-président sous Trump, n'avait aucun pouvoir et n'était simplement qu'un yes man pour le président. Je pense quand même que effectivement dans le cas présent, ils amènent quand même les deux vice-présidents possibles amènent une certaine perspective un peu différente des candidats présidentiels. Donc ils vont avoir quand même un rôle plus important que on pourrait croire d'après ce que dit Monsieur Trump.
Calvin Dark, dans quelle mesure la capacité d'un vice-président à succéder au président en cas d'incapacité ou de décès est-elle prise en compte lors du choix d'un colistier? Tim Walz et J.D. Vance sont-ils perçus comme capables d'assumer la présidence en cas de besoin?
Oui, en fait, ça, c'est le seul job officiel d'un vice-président selon la Constitution. Et tous les autres dossiers, c'est à la décision du président. Et je crois qu'après ce qui s'est passé avec le président Biden, l'âge est vraiment au centre de ce decision-making des électeurs. Parce qu'il faut se rappeler que Donald Trump, il a presque 80 ans. Alors, je crois que cette fois, parce qu'on a eu cette expérience de vraiment penser au rôle des vice-présidents, même si Kamala Harris, elle est beaucoup plus jeune que Donald Trump, la question est toujours là. Et surtout pour les républicains, s'il peut être président dans le cas que le octogenarian, si quelque chose passe à Donald Trump, s'il gagne, il est à la Maison-Blanche.
Junior, bon petit, J.D. Vance a souvent critiqué la politique étrangère actuelle des États-Unis, notamment en ce qui concerne les alliances internationales. Comment son approche, s'il devenait vice-président, pourrait-elle modifier les engagements des États-Unis en Afrique, par exemple, en particulier en matière de sécurité, de commerce et de développement?
Oui, J.D. Vance va suivre la ligne tracée par Donald Trump, que je disais tantôt, une ligne gagnant-gagnant, vous voyez. Donc, c'est une coopération d'égal à égal. Ce n'est pas une alliance où vous subtilisez les taxes des contribuables américains et qu'en retour, les États-Unis ne bénéficient presque de rien, vous voyez. Donc, c'est vraiment cette approche-là. Qu'est-ce que l'Afrique? L'Afrique, ce n'est pas un pays, c'est un continent. Donc, on va avoir des relations des États à un autre, comme le Mali est différent de la RDC est différent du Maroc. Donc, chaque État aura une coopération, une relation particulière adaptée à celui-ci. Donc, c'est vraiment le leitmotiv ici, c'est gagnant-gagnant. Qu'est-ce que l'Amérique gagne? Qu'est-ce que cet État-là gagne? Et c'est dans cette vision-là, voilà pourquoi nous soutenons les candidats Donald Trump et J.D. Vance.
Jean-François Seznec, compte tenu de l'expérience de Tim Walz en Chine et des critiques concernant ses liens passés avec ce pays, comment son rôle potentiel de vice-président pourrait-il influencer la politique étrangère américaine envers la Chine et quel impact cela pourrait-il avoir sur les relations commerciales et diplomatiques d'après vous?
Moi, je pense qu'en fait, ce serait très important parce que quelqu'un qui a eu de l'expérience en Chine, surtout la sienne, qui est longue, enfin un peu plus longue que la plupart des gens, pourra avoir vraiment une influence sur la façon dont la politique étrangère vis-à-vis de la Chine est faite. Et ce serait donc pas forcément une politique étrangère basée sur les punitions de punir la Chine, mais de travailler avec la Chine. Et je pense qu'en fait, ça, c'est un gros atout pour les États-Unis en général, si ça peut se faire. Parce que quelqu'un qui comprend la Chine et qui est vu par les Chinois comme comprenant la Chine aura beaucoup plus de résultats à obtenir des avantages de la Chine pour les États-Unis.
Calvin Dark, dans quelle mesure le choix d'un colistier reflète-t-il les priorités politiques du candidat principal, brièvement si vous pouvez?
Oui, en fait la réponse est claire, c'est de gagner. Je sais que Kamala Harris cherche quelqu'un avec qu'elle puisse collaborer. Peut-être il y a un dossier il est plus doué pour un dossier, mais maintenant, jusqu'à novembre, il y a un seul objectif. Ça, c'est de gagner les élections parce que sans ça, la collaboration et les relations entre les deux n'est rien.
Un mot également là-dessus, Junior Bonpetit.
Oui, mais c'est la même perspective, quoi. C'est gagner. Qu'est-ce que le colistier va apporter dans cette bataille? Et c'est le mindset maintenant, quoi. Nous sommes concentrés et chacun pousse à apporter sa pierre dans l'édifice pour la victoire le 5 novembre.
Merci beaucoup. Et voilà, c'est tout pour l'Amérique et vous, édition du vendredi 9 août 2024. Merci à nos invités, Junior Bonpetit, Jean-François Seznec et Calvin Dark. Georges Léonard Sagnou a assuré la mise en onde. Prochain rendez-vous, même heure, même endroit. Jacques Aristide du Studio 9 à Washington. Je vous souhaite une très belle soirée et un merveilleux week-end. Prenez bien soin de vous et des autres aussi. Je vous dis à très bientôt sur les ondes de la VOA.